suis innocent à 100%. Je suis victime d'ignoble et d'abominable machination. Je suis le bouc émissaire idéal.
Tommy Recco, condamné à perpétuité en 1960 pour un meurtre. Il est sorti au bout de 17 ans. Deux ans après sa libération, il a de nouveau tué, cette fois-ci, 6 personnes.
Si la peine de mort avait encore existé en 83, il était bon.
Il est mécaniquement criminel.
Le mot « mort » pour lui, ce n'est qu'un mot.
Au total, Tommy Recco a passé plus d'un demi-siècle en prison. Aujourd'hui, il ne souhaite plus qu'une seule chose, finir sa vie libre.
Est-ce que quand il va sortir, il n'aura pas une idée de vengeance ?
Recco est-il encore dangereux ? Doit-il rester en prison jusqu'à la fin de ses jours ?
Je suis dans un état de révolte. Je ne passe pas une journée sans penser à lui.
Avec Imen Gouali, nous avons décidé de retrouver les protagonistes de l'affaire Recco et d'analyser avec eux les conséquences et les répercussions de ce dossier hors norme.
Verdict sans surprise, hier soir à Draguignan, le jury de la cour d'assises du Var a condamné Tommy Recco à la réclusion criminelle à perpétuité pour les deux triples meurtres de Carquéran et de Béziers.
Ce vendredi soir, après sa journée de travail, Madame Le Goff rentre chez elle, à Carquéran, dans le Var. À son arrivée, les gendarmes sont déjà sur place. Son mari, Sandrine, sa fille de 11 ans, viennent d'être tués. Leur voisin, Jacques Coutrix, s'est également retrouvé mort. Les trois victimes ont été froidement exécutées.
Elles ont été abattues d'une balle dans la nuque. Il n'y a pas eu de lutte, donc c'est vraiment un assassinat de sang-froid perpétré par un individu qui n'a pas peur de tuer. On pourrait même dire c'est un assassinat commis par un habitué.
Pourquoi un tel carnage ? Et qui se cache derrière ces crimes ? Les gendarmes découvrent que le soir du meurtre, la petite Sandrine a essayé de joindre sa mère au centre pour enfants où elle travaille.
Elle dit « Quelqu'un veut faire du mal à mon papa, c'est le cousin de René. Au secours !»
C'est à partir de cette précision que des gendarmes vont tenter de mettre un nom sous l'appellation « le cousin de René ». Et ils vont chercher dans l'entourage des victimes trois René. On va vite en éliminer deux qui ont des alibis. Et le seul qui nous reste du cousin de René, c'est le nommé Tommy Recco.
Joseph Thomas Recco, dit Tommy. Il a 45 ans, est originaire de Corse et a un passé pour le moins inquiétant. En 1960, Recco a déjà commis un meurtre pour lequel il a purgé une longue peine de prison. La victime était un proche de la famille, son parrain, garde maritime à Propriano. Quelques jours après les faits, Tommy Recco avait été dénoncé pour ce crime par son propre frère, Pierre.
Il dit qu'il se trouvait avec lui sur le bateau, qu'ils étaient en train de pêcher à la dynamite, enfin de braconner. Et que Tommy s'est rendu compte que depuis la rive, le garde-pêche était là, qui les observait.
Le fait que le corps ait été littéralement massacré après avoir été criblé de balles ou de chevrotines, eh bien, a ajouté bien sûr à la dramatisation de cette affaire. Il y avait eu comme un acharnement.
Maître Alain Lode, pourquoi Tommy Recco, ce 28 octobre 1960, sur une plage de Propriano, aurait-il tué son parrain?
Manifestement, il ne supporte pas d'être surpris et il va décider de supprimer cet homme.
Mais Recco nie ce meurtre.
Il a toujours contesté ce meurtre. Ça n'a pas trompé la cour d'assises à l'époque, puisqu'il a échappé de peu à la peine capitale, qu'il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avant de bénéficier plus tard d'une libération conditionnelle.
Pourquoi cette libération conditionnelle?
Il fait 17 ans, comportement exemplaire en détention, chef de la chorale à Clairvaux, intervenant lorsque des mouvements divers se font au sein de la détention, protégeant les surveillants de l'administration pénitentiaire. C'est ainsi que cette demande de libération conditionnelle, après 17 ans, sera acceptée.
Un comportement exemplaire en prison, oui. Mais hors des murs, la réputation de Tommy Recco n'est pas si noble.
C'est quelqu'un dont tout le monde sait qu'il vaut mieux ne pas avoir de discussions passionnées, d'échanges de mots, de contrariétés réciproques avec lui. Tout le monde se doute que la réponse ne peut être qu'une réponse violente de sa part.
Un profil qui colle donc avec le triple meurtre de Carqueiran. Les gendarmes interrogent Tommy Recco, mais le corps se nie fermement. Le jour du meurtre, il était à Marseille. C'est là qu'il travaille, dans une entreprise spécialisée dans le matériel de plongée. Tommy Recco aurait donc un alibi. Mais les gendarmes ne le lâchent pas pour autant.
Je lui ai parlé, je lui ai dit « Pourquoi tu as dit, vous avez fait ça ou n'importe ?» Il ne me répondait pas. Et là, j'avais un journal à côté de moi, et où il y avait la photo de la petite fille. Et là, je lui ai montré, je lui ai dit « Mais pourquoi vous avez fait ça ?»
Recco persiste. Il n'a rien fait. Les enquêteurs décident alors d'entendre une des cousines de Tommy pour vérifier son alibi.
Et quand il l'a vu passer, il m'a dit « Pourquoi ma cousine est là ?» J'ai dit « Ma foi, c'est de ta faute. Tu n'avais qu'à pas faire ce que tu as fait. » Et il a eu un moment de recul. Puis il m'a dit « À toi, je vais te le dire. » Mais il m'a dit « Je ne veux pas que tu prennes la machine à écrire, ça me fait mal à la tête. »
Tommy Recco se met à table. Il avait, dit-il, un différend avec M. Le Goff. Il est venu pour le voir, pour s'expliquer. Ça a dégénéré. Le coup de feu est parti.
Il racontait ça comme, je sais pas, comme quelqu'un qui raconte une histoire banale. On avait l'impression qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Il m'a dit, moi, quand je veux tuer quelqu'un, j'y tire dans la tête. Et quand je veux le faire souffrir, j'y tire dans les genoux.
On n'a jamais su véritablement quelles étaient les relations entre Tommy Recco et M. Le Goff. Ils se seraient disputés à propos d'une arme. Il aurait perdu la tête. Il l'aurait abattu. Ce malheureux M. Coutrix, qui était un voisin, y perd la vie. Et puis, cette gamine est abattue d'une balle dans la tête. Donc, il présente les choses, si vous voulez, comme le fait que cette dispute dégénère. Il ne peut pas laisser de témoins. Et donc, il abat tout le monde.
Tommy Réco dit qu'on lui a extorqué ses aveux.
À l'époque, il prétendait avoir été frappé, sodomisé, même avec un manche à balai. L'expertise médicale n'apportera pas la démonstration qu'il a été effectivement victime de violence lors de sa garde à vue. Mais en tout cas, il va ensuite camper sur cette position.
Vous êtes son conseil, est-ce qu'à ce moment-là, vous essayez de lui faire entendre raison ?
Le problème, c'était de l'essayer de lui faire comprendre et lui dire en réalité que les charges étaient accablantes et que s'il les reconnaissait, ben, il ferait un pas vers la communauté des hommes quand même, hein, et qu'il devait ça au moins aux victimes. J'avoue que sur ce terrain-là, j'ai échoué.
Des victimes ? Les enquêteurs vont découvrir que Tommy Réco en a fait d'autres. C'était 3 semaines plus tôt, à 300 km de là, dans la région de Béziers. Ce 22 décembre 1979, Josette Alcaraz devait déjeuner chez ses parents.
Elle devait finir à midi. Et puis, elle me téléphone à 10h30, c'est son dernier coup de fil. Maman, je te téléphone parce que ne m'attendez pas pour manger avec papa, parce qu'il y a trop de travail, veille de Noël, il faut que je reste plus longtemps. Je ne sais pas à quelle heure je rentrerai dans l'après-midi. Voilà, c'est ses dernières paroles.
Vers 13h, dans le supermarché où travaille Josette Alcaraz, un braquage éclate.
Je monte au vestiaire et j'ai une collègue, Roseline, qui m'arrête. Et tout affolée, me dit « Carmen, il est arrivé un drame, il est arrivé un drame ». Je lui dis « Mais écoute, pourquoi tu me dis ça ?» Elle me dit « Je te promets, il y a un hold-up, il y a eu un hold-up ».
On rentre et là, on fait la découverte du drame. C'est-à-dire qu'on passe le sas, les deux portes du sas. On voit un premier corps allongé face contre terre et sur la gauche deux autres corps, les deux autres filles qui travaillaient à la salle des coffres.
Josette Alcaraz, René Chamaillou et Sylvette Morel ont été lâchement exécutées. Elles n'avaient pas 30 ans.
C'est carrément une tuerie parce que les trois filles, les trois caissières ont pris chacune une balle dans la tête alors qu'elles étaient allongées par terre. C'est une exécution pure et simple, avec un gros calibre en plus. On s'aperçoit que le tueur n'a pas hésité à les abattre froidement alors qu'il n'y était pas obligé. Hein. Mais bon, peut-être que l'une d'entre elles le connaissait. Et c'est peut-être pour ça qu'il les a tuées toutes les trois, ou parce qu'il aurait pu être éventuellement reconnu.
Guy Morel, votre épouse, avait 27 ans.
Oui.
Comment avez-vous appris sa mort ?
Ah ben, tout simplement, ce sont des amis à moi qui sont venus et ils m'ont dit tout simplement, il faut que tu viennes avec nous puisque ta femme veut te voir. Je suis parti à Béziers et je suis allé bien sûr au magasin Mammouth. Et quand je suis arrivé, disons, au niveau du supermarché, il y avait une effervescence. J'ai vu qu'il y avait des gyrophares, qu'il y avait les pompiers, qu'il y avait la police. Et bien sûr, j'ai cherché à comprendre, mais on n'a fait que me dire, hein, allez à l'hôpital. Elles sont à l'hôpital, mais je n'en savais pas plus. Et quand j'arrivais à l'hôpital, il y avait des infirmiers, des infirmières. Monsieur Morel, venez, on va vous calmer. J'ai pas besoin de calmant, j'ai besoin de rien. Mais personne ne nous a donné la moindre information. Et c'est le lundi que j'ai été avisé par le procureur de la République de me rendre le soir à 19h à Béziers, à la morgue.
Parlez-nous de Sylvette, quel genre de femme c'était ?
Ah ben écoutez, pour moi c'était la plus belle femme que j'ai pu rencontrer, puisqu'on était adolescents, on a fait notre jeunesse ensemble, il n'y avait aucune animosité, aucun problème, c'était l'entente parfaite.
Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez seule avec votre petite... avec votre petite fille de 6 ans.
Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, le premier, je ne pouvais pas m'en occuper, parce que moi, tous les jours, il fallait que j'aille à mon travail, et ma fille restait avec sa grand-mère, et on a vécu avec ce drame qu'il fallait assumer, quoi.
Des familles de victimes qui se retrouvent seules face à leur douleur, seules aussi face à celui qu'elles tiennent en partie pour responsable du drame, le directeur du magasin.
Eh bien, le directeur est venu me trouver en me disant que pour lui, il ne considérait pas ça comme un accident de travail, parce que c'est une personne étrangère au mammouth qui les avait tués, que ce n'était pas le plafond qui leur est tombé sur la tête. Après, alors je lui ai répondu que si c'était pour me dire ça qu'il était venu, qu'il pouvait repartir.
Le directeur, il voulait bientôt m'intimider et tout. Je vous assure, je l'ai pris, on était à un étage, j'ai cru que je le jetais d'en haut en bas. Il ne voulait pas prendre en considération les risques qu'il avait fait prendre au personnel. Mais malheureusement, c'était trop tard.
Après, on a reçu quelques temps après des feuilles de paye. Et effectivement, sur cette feuille de paye, le salaire était arrêté au 22 décembre 1979 à 1h, moment du drame. Ils n'ont même pas terminé le mois. Bon, l'argent, c'est secondaire si on veut, mais c'est la façon, c'est le procédé, c'est pas... Voilà, ça m'a complètement retourné.
Si les familles des victimes peinent à faire leur deuil, l'enquête, elle, progresse. Les deux triples meurtres de Carqueiranne et Béziers semblent porter la signature d'un seul et même meurtrier. Dans les deux cas, le tueur n'a laissé aucun témoin. Il a utilisé le même mode opératoire et les expertises balistiques correspondent.
Joseph Tommy Réco a été inculpé pour le triple assassinat commis au supermarché Mammouth de Béziers le 22 décembre dernier. Une inculpation qui s'ajoute à celle du triple meurtre de Carqueiranne le 18 janvier. Joseph Tommy Réco a 45 ans, il est donc soupçonné et accusé du meurtre de 6 personnes.
Malgré les évidences, Réco reste fidèle à lui-même et tente d'échapper à la justice. Maître Lotte, concernant le triple meurtre du supermarché de Béziers, comment s'explique votre client ?
Il va arriver chez le juge d'instruction de Béziers en niant complètement « je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire, je suis innocent à 100% ». Sauf que, bien évidemment, l'information va démontrer qu'il effectue des livraisons dans divers supermarchés de la région, donc dans ce supermarché, et que l'accusation démontrera que grâce à un stratagème, il a eu accès à la salle des coffres. Il va être mis en cause par un témoin qui va le reconnaître à son regard, qui est particulier, qui est très bleu, qui est glacial. Et ça va rester gravé dans la mémoire de cet homme.
Des éléments à charge, même si l'arme du crime reste toujours introuvable.
Le combat de la défense à partir de ce moment-là consistait à dire c'est peut-être la même arme, mais est-ce que c'est le même tireur ? Une arme au niveau du milieu, ça peut passer de main en main, et on ne peut quand même pas affirmer avec certitude que c'était le même tireur qui a utilisé l'arme et à Béziers et à Carqueiranne.
Pourtant, tout le monde considère Tommy Réco comme un dangereux criminel. Il est ce que les Américains commencent tout juste à appeler à l'époque un serial killer.
On a effectivement le coupable idéal, pour être clair. On a quelqu'un qui a un lourd passé judiciaire, et effectivement, très vite, Tommy Réco ne va plus être présenté comme un assassin présumé, il va être carrément, étant donné le poids de l'émotion qu'ont provoqué ces deux affaires, être présenté dans la presse souvent comme un assassin qu'on a déjà jugé et condamné.
L'ambiance est explosive quand s'ouvre le procès de Tommy Réco en juin 1983.
On sent que les gens sont énervés. Ils auraient bien aimé que la peine de mort existe encore. Quand le fourgon arrive, il me semble me souvenir qu'ils ont crié à mort, il me semble bien.
J'ai gardé ce souvenir juste avant d'entrer. Je lui dis, bon, monsieur Réco, essayez quand même d'être modéré, de... Oh non, ils vont m'entendre, hein. Je vais faire le show, je vais faire le spectacle.
Et alors, le Réco, lui, il a créé aussi une atmosphère absolument invraisemblable.
Il est arrivé avec sa chevelure, cravate, et il faisait des gestes.
En disant « Je suis Jésus-Christ, je suis innocent comme Jésus ».
Je suis innocent à 100%. Je suis victime d'ignorance et d'abominable machination. Je suis le bouc émissaire idéal.
Ce à quoi quelqu'un dans la salle lui répond « Et tu es coupable comme Satan ?»
Il entre dans ce box-là, propulsé par une force presque surhumaine, avec une petite pochette en plastique, l'index levé. « Ici, je suis victime d'abominable machination. On n'est pas chez Pinochet, on n'est pas au Chili. »
« Je vis vraiment le chemin de la croix. Je suis innocent, vraiment, à 100%. »
Et notez, messieurs de la presse, notez. Donc, c'est un comportement assez exceptionnel chez un accusé.
Au-delà de ce triste spectacle, le procès de Tommy Réco est placé sous haute sécurité.
On pouvait très, très bien supposer qu'un homme comme M. Morel, qui était dans le fin fond du gouffre du chagrin, pouvait se foutre éperdument de ce qui allait lui arriver et descendre Tommy Réco. C'est certain qu'il y avait une crainte de ce côté-là.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je vous dis, je ne pouvais pas bouger. J'avais la police sur moi. Le moindre geste que je faisais, j'étais neutralisé en quelque sorte. Hein.
Comment est-ce que vous auriez aimé qu'il se comporte? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il puisse vous dire?
Déjà, la première des choses, hein, c'est qu'il reconnaisse ses actes.
C'était très difficile pour les parties civiles supporter ça, parce que Réco niait. Il aurait reconnu les faits, peut-être ça aurait été plus logique pour les parties civiles, pour les parents des victimes. Ils auraient compris, mais là, cette comédie de l'innocence qui était absolument invraisemblable, ça les rendait fous.
Vous et les avocats de la défense, vous allez le supplier de dire la vérité. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va vous écouter?
J'ai eu le sentiment à un moment donné qu'il pouvait céder à la pression de cette audience. C'est une audience qui charrie une violence extrême, de la douleur de ces malheureuses victimes, une tension permanente. Et j'ai eu, pendant quelques secondes, le sentiment que la machine allait se débloquer, si vous voulez, qu'il allait dire qu'il était responsable de ces crimes. Mais ça n'a été qu'un espace de temps très fugitif. Étant précisé aussi qu'il s'exprime devant l'être qu'il vénère le plus au monde, sa mère. Dire à sa mère en pleine audience « Je suis responsable de 6 assassinats », pour un homme, au fond de sa conscience, ça doit être difficile.
Mama Réco, comme une icône corse, avec son air fier et ses grands châles de deuil. Face à elle, une autre mère, Henriette Alcaraz. Pour elle, ce procès est une épreuve insurmontable.
Je ne me suis pas senti la force d'aller à la barre, de témoigner avec lui en face. Je ne voulais pas me donner en spectacle et m'effondrer parce que je n'aurais pas été jusqu'au bout, je n'aurais pas pu. Alors j'ai refusé. Moi, si j'avais une question à lui poser, je lui demanderais simplement les derniers instants de ma fille.
Mama Réco, elle, n'est pas décidée à se taire. La mama défend même son fils Tommy à corps et à cri.
Elle a demandé à aller embrasser son fils. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai fait l'effort de me lever, de dire que je m'y opposais, que moi, ma fille, je ne pouvais plus l'embrasser à cause de lui. Elle s'est levée, elle a été jusqu'au box des accusés, elle a embrassé son fils comme elle voulait, sans que personne intervienne. Voilà.
Au terme d'une semaine de débat, Tommy Réco est condamné à la peine la plus lourde, la réclusion criminelle à perpétuité.
Ma fille, sa sœur donc, m'a attrapée dans ses bras, elle me dit « Maman, maman, on a gagné ». J'ai dit « On n'a rien gagné du tout, parce que oui, il est condamné à perpétuité ». La mère s'est levée et nous a dit, nous a maudit. Elle a dit « Je vous maudis à tous, mon fils est innocent ». Bon, à perpétuité, ça me laissait espérer qu'il ne puisse pas recommencer. Parce que si la première fois qu'il avait été condamné à perpétuité, on ne l'avait pas relâché au bout de 15 ans, je vois ma fille.
À l'époque, si vous voulez, la peine de sûreté n'existait pas encore. Donc, il pouvait espérer, en bonne conduite, demander une mise en liberté, en liberté conditionnelle, au bout de 18 ans, par exemple.
Je me demande des fois, ceux qui prennent la décision, les gens qui se réunissent, ils sont plusieurs, s'ils sont père ou mère de famille, qu'est-ce qu'ils ont dû ressentir, eux, après ? Il a tué au mammouth 3 personnes, mais 3 semaines après, il en tue 3 autres. 3 semaines après, dont une petite fille de 11 ans.
Tommy Récaud emprisonné à vie, Guy Morel entend bien que cette peine soit appliquée. Pour lui, pas question de libération conditionnelle.
Je vous dis une chose, c'est que le jour où ma femme est rentrée, comme on dit, dans le caveau, je lui ai dit « je te vengerai ». Que ça ne déplaise à qui que ce soit, si Récaud un jour retrouve la liberté, voyez, je m'en cache pas, je ne suis pas un tueur, je ne suis pas un assassin, mais croyez-moi, je ne lui laisserai pas un jour de liberté. Même dans 18 ans, si, comme on dit, j'ai les pieds sur terre, j'irai au-devant de Récaud.
Aujourd'hui, 40 ans après les drames, la douleur est toujours aussi vive pour les familles de victimes. Sylvie, la fille de Guy Morel, a accepté pour la première fois de témoigner.
Sylvie Morel, vous vous souvenez du jour où on vous a annoncé que votre maman ne serait plus là ?
Alors, j'étais à ce moment-là très petite, donc j'avais 6 ans. C'était à 3 jours de Noël, où ben, je languissais d'ouvrir mes cadeaux avec mes parents au pied du sapin. Et je pense qu'on a voulu m'éviter voilà, ce drame et cette douleur. Et on m'a envoyé chez la meilleure amie de ma maman, avec ma copine qui avait le même âge que moi. Mais c'est vrai que je me rappelle pas le jour ni les circonstances, comment je l'ai appris.
C'est pas facile pour votre père de se retrouver seule à vous élever du jour au lendemain ?
La première des choses qu'on a proposé à mon père, c'est de me placer quelque part. Un jour, il avait été reçu par une psy et il me dit, en même temps qu'elle me disait qu'il fallait que je te place, j'entendais ses enfants derrière jouer. Et il a répondu, voyez, vous êtes avec vos enfants jouent, ils rigolent et moi, vous voulez que je me sépare de ma fille alors que je viens de perdre ma femme. Et plus jamais de sa vie, il n'a jamais voulu voir un psychologue ou quelqu'un.
Elle vous a manqué, votre mère, j'imagine.
Oui. Comment grandir sans une maman hein. On a toujours besoin d'une maman. Après, c'est vrai que petite, j'ai été très bien entourée. Donc, ça m'a permis d'évoluer correctement et d'avancer dans la vie. Mais effectivement, oui, un grand vide et surtout un grand sentiment d'injustice. Pourquoi on m'avait pris ma maman quoi. Pourquoi, voilà.
À 94 ans, Henriette, la maman de Josette Alcaraz, pleure toujours sa fille. Elle se rend chaque jour sur sa tombe.
Deux fois par jour, par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente, je ne dis pas qu'il neige parce qu'ici il ne neige pas, mais c'est un besoin que j'ai. Alors je monte à 8 heures, je discute avec elle. Évidemment, je n'ai pas de réponse. Et à une heure, je remonte, à une heure de l'après-midi, parce que c'est là où ça s'est passé, entre une heure et une heure et demie, que je n'étais pas présente pour lui venir en aide. J'ai été impuissante devant ce drame.
Depuis le drame de Béziers, le temps s'est figé pour Guy Morel. Toute sa vie ne tourne plus qu'autour d'un seul événement, l'assassinat de sa femme. Maître Étienne Nicolo, 40 ans après, vous êtes toujours l'avocat de Guy Morel.
Oui, parce que Guy Morel est un homme émouvant qui n'a jamais oublié que le jour de Noël 1979, on lui a ramené son épouse dans un cercueil au pied du sapin, à côté duquel se trouvaient les jouets de leur fille. La société peut oublier, La justice peut oublier. Guy Morel n'oubliera jamais.
Monsieur Morel, comment allez-vous aujourd'hui ?
Je suis seul, je vis tout seul. Et qui que ce soit que je peux rencontrer dans ma situation, qui voulez-vous qui partage ma vie avec le combat que je mène ? Hein ? Attendez, c'est impossible. Avec la meilleure volonté, même moi, j'en ai même plus le droit. Je me l'interdis, ce droit. Parce que je suis dans un état de révolte. Je ne passe pas une journée sans penser à lui, à savoir au quotidien.
Quel sentiment vous avez à l'égard de Tommy Recco ?
Mais de la haine. Il m'a volé mon enfance avec ma maman. Donc, il m'a volé des joies, plein de bonheur, plein de rires, que je n'ai pas pu avoir avec elle.
Quand vous êtes devenue maman, j'imagine que ça n'a pas été simple à ce moment-là ?
Non. Je crois que c'est là où elle m'a le plus manqué. Parce qu'effectivement, quand on a des enfants, on a besoin de conseils, on a besoin de soutien, de beaucoup de choses. Hein. Sinon, on se retrouve toute seule face à beaucoup de problèmes. Et là, effectivement, elle m'a beaucoup manqué.
D'autant que votre fils est né un jour particulier ?
Mon second fils est né effectivement le jour du décès de ma mère. Il est né le 22 décembre 2008. Et ma maman donc, a été assassinée le 22 décembre 1979. À tel point que quand j'ai accouché, donc mon mari a appelé mon père lui disant « Je vous appelle parce que Sylvie est à l'hôpital ». Et mon père, de suite, a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il n'a même pas réalisé que ça pouvait être la naissance de son petit-fils, tellement il était hanté par cette date-là. Je suis contente parce que je me dis que finalement, cette date ne reste pas associée qu'à un malheur. On y pense, on pense à elle énormément. Mais en même temps, ça nous met un petit peu de gaieté dans le cœur quand cette date arrive.
À Carcarano aussi, les crimes de Tommy Recco ont laissé une empreinte indélébile. Maître Collard, comment va la famille Le Goff aujourd'hui ?
Elle va aussi mal qu'au premier jour. La présence horrible du crime ne se défait pas. On ne s'en sépare pas. C'est immarcessible, inoubliable.
Certains proches des victimes parlent encore de se faire justice elles-mêmes alors que la justice est passée.
Il faut dire aussi que le Tommy Recco, il a une espèce d'appétence effroyable pour le crime. Alors je comprends que les familles des victimes ne veulent pas qu'il sorte. Même si on se fait toujours une idée de la rémission. Lui, il est mécaniquement criminel. Et même à 85 ans, si on le libérait, il y aurait un risque que la mécanique reparte.
Tommy Recco est toujours détenu au centre pénitentiaire de Borgo, en Corse. À 83 ans, il détient le record du plus grand nombre d'années cumulées derrière les barreaux, 54 ans. Dans chaque prison où Recco est passé, il a laissé un souvenir tenace. Jacques Strujinski, vous étiez surveillant de prison au Baumettes. Dans quel cadre avez-vous rencontré Tommy Recco ?
Jeune surveillant, en 83, j'ai été affecté au quartier où il était incarcéré, l'ancien quartier de haute sécurité qui était devenu à l'époque le quartier d'isolement, et au quartier disciplinaire, l'ancien cachot.
Quel genre de détenu était Tommy Recco ?
Avec le personnel et en particulier avec moi, il était très très correct, il était assez souriant, assez gai, puis il assumait sa prison tranquillement. Franchement, au niveau comportement, il y avait rien à lui reprocher.
Qu'est-ce qu'il faisait de ses journées en prison ?
Il faisait un peu de sport dans sa cellule, mais très peu, puisqu'il était au quartier d'isolement, donc ils avaient droit à une heure de promenade, et le reste du temps, ils étaient en cellule à part la douche. Il préparait des petits plats pour lui et puis pour un autre détenu aussi.
C'était qui ?
Un détenu qui avait été un tueur à gages. Il a balancé, entre guillemets, son commanditaire et il a commencé à avoir peur et a entamé une grève de la faim. Et un jour, le directeur de l'établissement de l'époque vient le voir et lui dit « Écoutez, monsieur, cette grève de la faim, arrêtez-la. » Et là, il dit « Oui, mais votre personnel, à part monsieur Strujinski, pour 10 000 francs, il pourrait m'empoisonner. » Il dit « Bon, ben, on va faire une chose. » Tous les jours, M. Strujinski viendra vous chercher. Il vous amènera dans la cellule de Tomireko et Tomireko vous fera manger.
Il était respecté ou il était craint?
Craint, je ne sais pas, mais respecté en tout cas. Sûrement par rapport à ses années de prison passées. C'est un peu comme un diplôme. Hein.
Est-ce qu'il avait l'espoir de sortir un jour?
Je crois que tous les détenus ont un jour l'espoir de sortir. Et tous les détenus ont un jour l'espoir peut-être de pouvoir s'évader. Je pense que c'est ce qui les maintient un peu en vie aussi.
Est-ce qu'il avait des visites? Est-ce que sa famille venait le voir?
Non. La seule visite qu'il avait, que je connaissais, c'était son épouse.
Chantal. Ils se sont rencontrés avant les deux triples meurtres de Carcarane et de Béziers. Le couple s'est marié durant la détention de Réco en juin 1991.
J'ai été le témoin de ce mariage qui s'est déroulé à la maison d'arrêt de Toulon. Je vois, comme si c'était hier, Chantal arriver dans un ensemble blanc avec un camélia à la boutonnière. Une cérémonie civile en présence du directeur de la maison d'arrêt de Toulon qui était le témoin du marié.
Comment ils se sont rencontrés?
Se sont rencontrés parce qu'ils habitaient à peu près dans le même quartier à Marseille. Et puis c'est un homme qui sait parler aux femmes, qui sait se montrer sous son meilleur jour. Et c'est ainsi que leur idylle a commencé à naître, à prospérer jusqu'au mariage.
Chantal est restée depuis son plus fidèle soutien. L'autre femme de sa vie, sa mère, Mama Réco, est morte à l'âge de 75 ans, en pèlerinage à Lourdes. Elle faisait son chemin de croix. En France, seuls 4 détenus purgent une peine de perpétuité incompressible. L'espoir d'une sortie est donc permis pour Tommy Réco. Jean-Claude Bouvier, vous êtes magistrat, vice-président chargé de l'application des peines au tribunal de Paris. Une peine de prison à perpétuité n'en est finalement pas une en France. Pourquoi ?
Le législateur a mis en place des mécanismes qui permettent parfois de contourner cette perpétuité, notamment parce que effectivement, avec le temps, avec l'évolution, à la fois du profil, des problématiques de la personne et tout, il est possible de pouvoir envisager des libérations, des projets d'insertion, si vous voulez.
Au bout de combien de temps une personne condamnée à perpétuité peut-elle formuler une demande de mise en liberté ?
Il est en principe possible, après un délai d'épreuve de 18 ans, qui peut aller jusqu'à 22 ans si on est récidiviste, eh bien on peut demander une libération conditionnelle.
Comment est prise cette décision de libération ?
Il y a deux étapes obligatoires. La première étape, si vous voulez, c'est une évaluation de la dangerosité, et c'est une évaluation pluridisciplinaire qui va durer 6 semaines. Et si la juridiction d'application des peines décide de procéder à une libération conditionnelle, elle doit forcément accompagner cette libération conditionnelle d'une surveillance électronique mobile.
J'imagine qu'il y a des garanties à apporter.
On va devoir travailler avec les problématiques de la personne. Quels risques il pose, quelles difficultés peuvent poser sa remise en liberté. Ça, ce sont des éléments qu'il faut qu'en principe on ait évalués avant de pouvoir décider d'une libération conditionnelle.
Quand on est condamné à une peine de prison en France, tout est négociable.
C'est compliqué de dire ça, si vous voulez, parce qu'en fait, peut-être que tout est négociable. Mais il faudrait peut-être qu'on évalue combien de personnes qui ont été condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ont pu bénéficier d'aménagements de peine, si vous voulez. Mais c'est très rare.
Après 24 années de détention, Réco fait sa première demande de libération en 2004, depuis la prison de Clairvaux. Les parties civiles et leurs avocats, tenus informés de cette démarche, viennent alors défendre leur position devant le tribunal. Tommy Réco ne doit pas sortir, ni maintenant, ni jamais.
Maître Étienne Nicolo, vous avez le droit d'assister aux audiences du tribunal d'application des peines. Est-ce qu'il y vient, Réco ? Est-ce que vous l'avez rencontré ?
Lorsque Réco s'est présenté devant le tribunal d'application des peines, avant même de s'asseoir, il a dit « Il y a deux personnes au monde qui sont innocentes, Jésus-Christ et moi. » J'ai compris à ce moment-là que sa demande serait de toute façon rejetée, parce qu'il prouvait qu'il n'avait rien compris, qu'il était toujours sur la même défense et que par conséquent, les magistrats, lors de cette première demande de libération conditionnelle, ne le suivraient pas.
En 2008, hein, lors d'une demande de libération, il invoque un cancer de la prostate en phase terminale.
Tommy Récaud prétendait qu'il était mourant, qu'il avait un cancer, qu'il ne pourrait pas sortir de prison si ce n'est dans un cercueil. Il a inventé le cancer de la prostate en phase terminale. Jamais ce cancer n'a été décelé par un quelconque expert. Il eut simplement un carcinome sur un cancer bénin qui ne risque absolument rien, qui a été traité et qui ne mettait pas sa vie en péril.
Il a aussi subi un triple pontage coronarien, c'est pas rien ça.
C'est pas rien, mais il l'a subi alors qu'il était en détention. L'opération s'est bien passée. Il y a, je pense, aujourd'hui en France, de nombreuses personnes qui vivent avec des pontages coronariens et qui arrivent à vivre normalement.
Méréco garde espoir. En mai 2017, il mise sur le bâtonnier du barreau de Bastia pour sa dernière demande de libération conditionnelle. Mais pas de quoi impressionner les familles de victimes qui, elles aussi, se font représenter par une avocate corse, elle-même ancien bâtonnier.
Linda Piperi, les parties civiles ont fait appel à un avocat corse, vous en l'occurrence. Mmh. Pourquoi ?
Bien parce qu'il est détenu au centre de détention de Borgo, que ses demandes sont instruites devant la chambre d'application des peines de Bastia et c'est quand même un petit peu plus simple.
Tommy Récaud parle-t-il encore de problèmes de santé pour demander sa sortie de prison ?
Ce n'est pas les éléments invoqués. C'est le besoin, bien sûr, de recouvrer une vie sociale à l'extérieur. Et puis, il invoque, bien sûr, les années de prison passées, 54 ans en tout. Donc, effectivement, il estime avoir payé son dû à la société et pouvoir vieillir aux côtés des siens.
Et ça, vos clients le refusent ?
Elles souhaitent, ces familles de victimes, que la perpétuité à laquelle il a été condamné soit une perpétuité réelle. Ils vivent eux-mêmes à perpétuité cette douleur et ils souhaitent que l'auteur de leur douleur et de leur souffrance la vive également.
Celui qui a pris la tête du combat des familles de victimes, c'est Guy Morel. Il ne lâche rien. À chaque transfert de Tommy Récaud dans une nouvelle prison, il s'y rend. À chaque demande de libération, il manifeste son opposition.
Monsieur Morel, vous dites, moi vivant, Tommy Récaud ne retrouvera pas la liberté.
Pas un jour de liberté. C'est pas compliqué. Vous prenez un dictionnaire. La définition de perpétuité. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour toujours, autant que durera la vie d'un homme.
Monsieur Récaud, 83 ans ?
Oui.
Il a passé 54 ans
ouais.
En prison ?
Et puis qu'il y reste jusqu'à la fin de ses jours.
C'est à la justice ?
Non, il n'y a pas de justice.
Pas à vous ?
Pas de justice. Mais moi, je vais être honnête avec vous. La justice, c'est quoi ? C'est quoi la justice ? C'est rien du tout. Et aujourd'hui, en quelque sorte, on se préoccupe de lui, de sa situation. Qu'il veut retourner avec sa femme, il touche une pension, il n'indemnise pas les victimes. Mais où on va ? En quelque sorte, on va se préoccuper aujourd'hui de sa situation, on ne se préoccupe pas de la mienne. Alors que lui, on lui ouvre la cellule le matin, il a le droit de déambuler dans la prison, il a le droit de téléphoner. S'il a un problème, il y a les médecins, on s'occupe de lui. Moi, aujourd'hui, j'ai peur de le dire, je suis seul. Et personne ne se préoccupe si j'ai à manger, si je me lave mon linge ou si j'ai quelque chose à faire. Moi, je voudrais que M. Récaud comprenne que là où il est, c'est sa place hein, et qu'il y reste. Hein. Voilà.
Si un jour vous apprenez que Tommy Récaud est mort, ce jour-là, il y aura un grand vide, qu'est-ce que vous allez faire ?
Eh bien, je ne sais pas. Peut-être je ferai le pèlerinage et j'irai cracher sur sa tombe.
Moins impliquée, Sylvie, la fille de Guy Morel, comprend toutefois le combat de son père.
Sylvie Morel, vous partagez le combat de votre père ?
Je le soutiens et quand il fait les choses, j'en suis fière. Mais des fois, je m'en veux un peu intérieurement parce que je le suis pas dans toutes ses démarches. Et effectivement, il mène cette bataille un peu tout seul.
Vous ne pensez pas que c'est de la folie qui devrait à un moment donné tourner la page.
C'est quelque chose qui s'est promis, que de son vivant, Tommy Reco ne serait pas dehors. Je connais mon père et je sais que voilà, jusqu'à la fin de ses jours, ça aura été le combat de sa vie, mais ça sera le combat.
Et si Reco sortait, vous pensez qu'il mettrait sa menace à exécution?
Je peux y penser, certaines fois je peux y penser parce que c'est vraiment une grande, grande colère et effectivement, moi il m'a toujours dit, il est hors de question que je le laisse vivre s'il sort.
Vous craignez la réaction de votre père ou celle de Tommy Reco?
Il sait très bien que c'est mon père qui mène ce combat et que c'est à cause de mon père qu'il est toujours là où il est aujourd'hui. Et donc est-ce que quand il va sortir, il n'aura pas une idée de vengeance?
Inlassablement, les familles de victimes alertent, les unes après les autres, les instances judiciaires du risque de libérer Reco.
Moi, j'écris au président, au juge d'instruction, au garde des Sceaux, j'écris à tout le monde. Je leur demande qu'ils prennent conscience que ce type est dangereux et qu'il ne faut pas le relâcher. Voilà, c'est tout. C'est ce que je demande, c'est mon vœu le plus cher maintenant. Une m'a répondu, 6 mois après, c'est Madame Taubira, en me disant que malheureusement, elle ne pouvait rien faire parce que l'État s'est séparé de la justice. Et là, Macron, je n'ai pas écrit. Ça ne sert à rien, ils ne me répondent pas.
La dernière demande de libération de Tommy Reco a finalement été refusée par le tribunal d'application des peines en juillet 2017. Une décision confirmée en appel 4 mois plus tard.
Linda Piperi, vous voyez Tommy Reco lors de cette audience. Quelle impression vous fait-il ?
Il est arrivé soutenu par une canne, avec une ceinture de force. Nous savons qu'en réalité, il ne l'utilise pas dans sa vie quotidienne. Mais il s'exprime très vertement, très clairement. Il est assez vigoureux. Même très vigoureux, et il ne fait vraiment pas son âge, c'est certain.
À ce refus de libération conditionnelle a été adjoint une interdiction de 2 ans de faire une nouvelle demande. Est-ce que c'est fréquent ?
Non, je ne pense pas. C'est relativement rare, justement, mais ce caractère exceptionnel de la décision est en droite ligne du caractère exceptionnel de ce qu'est le cas Reco. C'est peut-être aussi pour protéger les parties civiles, à mon sens.
Dans 2 ans, Tommy Reco aura 85 ans. Est-ce que c'est une manière de faire en sorte qu'il ne puisse jamais retrouver la liberté, selon vous ?
Peut-être. La situation ne changera pas. Il sera toujours, à mon sens, aussi dangereux. Et il me semble que la décision ira sans doute dans le même sens également.
Mais Reco n'a pas dit son dernier mot. Il demande aujourd'hui à la Cour de cassation, la plus haute juridiction de France, de se prononcer. Une nouvelle procédure qui pourrait être examinée dans un délai d'un an et durant laquelle il restera évidemment en prison.
Maître Lotte, Tommy Reco a aujourd'hui pris un avocat corse pour le défendre. Pensez-vous qu'il pourra sortir un jour?
Les juridictions qui ont refusé cet élargissement, ce placement sous surveillance électronique, nous disent 2 choses. Il est toujours dans le même système de défense, il n'y a pas d'empathie envers les victimes. Et même à 83 ans, les juridictions considéraient qu'il restait dangereux et qu'un risque de récidive n'était pas à exclure.
Elle a quel pourcentage de chances de réussir cette procédure devant la Cour de cassation?
Je pense que sur ce terrain-là, je ne me fais pas d'illusions. La Cour de cassation confirmera les décisions, puisqu'on sait que la Cour de cassation, elle n'est pas là pour appréhender les faits, elle n'appréhende que le droit. Je ne pense pas que les magistrats à Bastia aient commis des erreurs de droit. Donc on se dirigera vers un rejet de ce pourvoi. Après restera ce qu'il a l'air de me dire dans ses derniers écrits, la possibilité d'un recours en grâce ou, si son état de santé devait s'aggraver, une nouvelle demande de suspension de peine pour raison médicale.
Si Reco obtenait gain de cause, il ne sortirait pas pour autant. Un nouveau tribunal d'application des peines devrait statuer sur son cas. la grâce présidentielle, elle, reste très rarement accordée.
Linda Piperi, on se souvient encore du nom de Réco, en Corse, 40 ans après cette histoire?
Oui, bien sûr. Parce que Réco, ce n'est pas que Tommy Réco, c'est une famille, c'est beaucoup de violence.
Si un jour il sortait, vous pensez qu'il serait le bienvenu sur la terre qui est la sienne?
Je ne crois pas. C'est quand même un personnage dont la Corse n'est pas forcément fière.
Les chances pour Tommy Réco de retrouver la liberté et de revoir son village natal sont donc très minces.